tous et bienvenue autour de votre grande table. Fausses nouvelles et théories du complot, la guerre des récits. L'essayiste Pierre Bayard publie chez Minuit un plaidoyer décalé pour les contre-vérités en littérature. Comment parler des faits qui ne se sont pas produits? Un livre qui interroge notre besoin de récits à l'heure, justement, où le documentaire Hold Up, qui propose un contre-récit taxé de complotistes, se fait viral sur Internet. Il sera en dialogue, Pierre Bayard, avec Thomas Huchon, documentariste. Mais d'abord, un maître de la fiction au cœur de la grande histoire, auteur de Une femme fuyant l'annonce, prix Médicis étranger, et de Un cheval entre dans un bar, lauréat pour ce livre du Man Booker Prize, David Grossman cherche la lumière dans les silences du passé. Écrivain des mémoires blessées, le romancier israélien s'inspire cette fois d'une histoire vraie et raconte au féminin l'existence, le destin, dans la vie Joue avec moi, qui paraît au seuil, traduit par Jean-Luc Alouche.
La grande table. Olivia Gesbert.
Trois générations de femmes, Vera, venue de Yougoslavie en Israël, sa fille Nina et sa petite-fille Gilly. Pour les 90 ans de la grand-mère, toute la famille est réunie dans un kibboutz israélien. Nina est là aussi, longtemps absente. Elle est là, mais avec une mémoire qui flanche. Elle aimerait fondre dans la pellicule l'histoire de sa mère, et donc celle de sa vie, pour pouvoir s'en souvenir le jour où sa mémoire l'aura définitivement quittée. Elle aimerait surtout percer les secrets, mettre à jour les non-dits, un voyage à rebours dans le passé de Vera, jusqu'en Croatie, jusqu'à son premier amour, Miloche. « À vous deux, vous êtes tout un roman », lui dira sa petite fille. Bonjour David Grossman.
Shalom Olivia.
Bonjour.
Bonjour Olivia. Merci de m'accueillir dans votre programme.
Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour à votre voix française, Michel Slotowski. À vous deux, vous êtes tout un roman, lui dira donc sa petite fille. Et pourtant, ce roman que vous avez écrit, David Grossman, est inspiré d'une histoire vraie.
Oui, c'est basé sur l'histoire vraie que m'a racontée personnellement Eva Panich Nahir, qui m'a téléphoné un jour chez moi et qui m'a dit que elle avait une histoire pour moi. On se connaissait pas avant. Et vous savez, quand on dit à un écrivain, j'ai une histoire pour vous, à ce moment-là, ça lève toutes les barrières. C'est la chose la plus extraordinaire qui puisse arriver à quelqu'un. Et donc, je lui ai demandé de me raconter son histoire. Elle a commencé à raconter, et à un certain point, très tendu, elle a arrêté. Elle a dit, peut-être que je t'ennuie un peu, peut-être que je vais te téléphoner une autre fois. Je lui ai dit, bon d'accord, tu m'ennuies pas, mais si tu veux, téléphone une autre fois, mais promets-moi que tu vas me rappeler. Et elle l'a rappelé, et puis lorsque l'histoire est arrivée à l'endroit le plus intéressant, Elle s'est arrêtée. Voilà, c'était garder le suspense, n'est-ce pas, pour que je sois toujours éveillé. Elle m'a raconté l'histoire peu à peu, petit à petit, et on s'est lié d'amitié, on s'est rencontrés. Et pendant les 20 années d'amitié, elle m'a raconté cette histoire des dizaines de fois. À chaque fois, elle ajoutait un détail, une nuance à laquelle elle n'avait pas pensé précédemment. Et je voudrais simplement dire que de notre première conversation, elle voulait vérifier si j'allais en faire un livre. Je lui ai dit oui, j'en ferai un livre, parce que un récit tellement fort, tellement extrême, j'avais jamais entendu ça de ma vie. Mais je lui ai dit, écoute, Eva, moi je ne vais pas te décrire exactement comme tu es, je ne suis pas documentariste, je suis écrivain de fiction. Je dois aussi t'imaginer, te créer. Elle a dit tout de suite, tu as toute licence poétique, tu as toute liberté du romancier. Et j'ai fait ainsi, je l'ai décrite aussi comme elle était et je l'ai aussi en partie imaginée.
Et on imagine que vous avez su assez vite que cette histoire vraie, ce récit terrible, et on va l'évoquer, pouvait faire un bon roman, parce qu'il y a au cœur de cette histoire un ressort fictionnel, littéraire, qui est passionnant. C'est le dilemme, c'est la question du choix. D'ailleurs, ce livre aurait pu s'appeler « Le choix de Vera », tant ce choix va avoir des conséquences sur sa vie, mais aussi sur celle de sa fille et sur celle de sa petite-fille. C'est un destin terrible hein, que vous raconter à travers cette figure, à travers cette figure fictionnelle inspirée de la vie d'Eva Panitch-Nahir, décédée il y a 5 ans, qui était une femme rescapée du goulag. Elle s'est longuement confiée à l'écrivain serbe Danilo Kis pour la télé serbe. Elle l'a aussi raconté une partie de sa vie dans un film, avant de vous confier votre son histoire. On va écouter cette femme témoigner d'un tout petit bout de sa relation avec sa fille, et après on raconte.
Elle était très en colère. Depuis longtemps, elle disait « Tu aimais mon père plus que moi ». Je disais « Oui, oui. Si ton père était en vie, je pourrais avoir d'autres enfants ». Jenna pouvait partir, mais j'aurais pu avoir d'autres enfants. C'est ma vérité. Je ne peux pas prétendre être meilleure. Je l'aimais plus que la vie elle-même, plus que le monde entier. J'ai essayé de me suicider en prison quand il est mort. Je me suis pendue, sans rade, je ne pouvais plus continuer à vivre.
Voilà, extrait du film documentaire intitulé Eva, réalisé par Maccabit Abramson et Avner Feingulernt. Elle était très en colère, dit-elle de sa fille. Tu aimais mon père plus que moi. Oui, s'il était en vie, je pourrais avoir d'autres enfants. C'était ma vérité. Je ne peux pas prétendre être meilleure. C'est déjà fou de parler rétrospectivement de soi de cette manière-là. Elle raconte à ce moment-là ce qui va être ce choix qui va faire basculer 2 générations par la suite. Est-ce que vous pouvez nous raconter à quel moment de sa vie elle a dû faire ce choix ?
Elle a dû faire ce choix horrible, terrible, inhumain. Lorsque on l'a invité à venir au bureau de Ludba, le service secret de Tito. Et là, Rade Panic, son mari était déjà inculpé et incarcéré pour trahison du peuple, parce qu'il avait il aurait eu évidemment des liens avec Staline, ce qui est totalement faux. Mais non seulement il était emprisonné, mais un jour avant qu'on ne fasse venir, qu'on amène Eva, il s'était pendu dans sa cellule. Et ils ont tenté de faire dire à sa femme ce que lui n'a pas voulu dire, qu'il avait trahi son pays, qu'il avait trahi son peuple, qu'il avait trahi Tito. Il voulait d'elle qu'elle avoue que son mari était un ennemi du peuple. Et si elle avait accepté, elle aurait eu tous les bénéfices de ce que la nomenclatura pouvait avoir. Mais il aurait fallu à ce moment-là qu'elle garde tout cela secret. Et elle n'aurait jamais dû raconter cela à sa fille Tiana dans la vie réelle et Nina dans mon roman. Si elle avait voulu le faire, elle aurait pu sortir par la porte de droite. Et de là, ça aurait été bien. Mais si elle refusait, c'était la porte de gauche, et ça allait directement vers le goulag de Goliotok, où étaient emprisonnés tous ceux que Tito et les siens considéraient comme ennemis du peuple. Et il fallait donc là passer par une rééducation et des choses horribles. C'était une sorte de camp de concentration, et parfois même un camp d'extermination. Je l'ai visité 2 fois. C'est un des endroits les plus horribles que j'ai visité. Et donc, devant elle, il y avait un choix qui semble extrêmement simple et que chacun d'entre nous, saint d'esprit, aurait choisi de sauver sa fille vivante et de ne pas être envoyé vers un camp de torture comme Goliotok. Mais l'idée de trahir son être, son aimé, elle ne pouvait pas le faire. Son amour était tellement total, tellement hermétique. Savoir qu'il s'était tué, ça a fait qu'elle a cessé de ressentir. Elle a dit, je n'étais plus vivante, j'étais une femme morte. Et les enquêteurs ont demandé, mais tu es prête à abandonner ta fille? Elle a dit, mais je ne suis plus vivante, je ne suis plus mère, je ne sens plus rien. Je ne sais qu'une seule chose. Je suis la seule personne au monde qui connaisse la vérité sur Radu Panic. Je suis la seule qui puisse sauver sa mémoire, qui puisse sauver ses valeurs, son intégrité. Olivia, pendant 20 années d'amitié avec Eva Pinschneir, j'ai parlé plus d'une fois de ce choix. Je lui dis que pour moi c'était terrible. Je sais qu'aujourd'hui, si elle avait choisi autrement, elle se serait désintégrée. Je ne cherche pas à la justifier, mais je voudrais que le lecteur ou la lectrice de mon livre, pendant une seconde, réfléchisse. Peut-être qu'on va comprendre ce qu'elle a fait. Peut-être qu'elle savait que la seule chance qu'elle avait de conserver un bon renom à son mari, est-ce que ça justifie ce qu'elle a fait? Je ne sais pas. Mais je voulais que le lecteur ou la lectrice arrête de juger de façon absolue et tente de voir les choses à travers ses yeux à elle, comme moi j'ai essayé de le faire. Et je dirais aussi que quand j'ai rencontré ces deux femmes exceptionnelles, Eva Nahir et sa fille, Tiana, quand je les ai rencontrées toutes les deux, et quand j'ai vu comment elles se comportaient l'une envers l'autre, comment Tiana a appris avec les ans à pardonner à sa mère et dire que voilà, c'est comme ça qu'elle est au monde. Elle ne cherche pas à embellir les choses. Elle va avec sa vérité jusqu'à la fin, même si cette fin est horrible. Et non seulement cela, mais en dépit de cela, Eva a toujours refusé de regretter son choix. Et Tiana a dit, voilà, elle n'embellit pas les choses, ma mère, et c'est pour ça que je l'aime. Je dois dire que parfois on me demande, est-ce que j'ai appris quelque chose de ce livre? Est-ce qu'il y a un message que je veux faire passer? Mais tout d'abord, moi j'écris pas des bouquins pour faire des messages. J'écris des livres pour raconter des histoires fortes, des histoires humaines. Et dans chaque histoire humaine, il y a une couche, et puis on creuse, et puis il y a une autre couche, puis on creuse, il y a encore une couche supplémentaire. C'est l'archéologie de l'humain. Je veux que lorsque je raconte une histoire, que arriver au fait que le lecteur, la lectrice, sente ces couches superposées. Et je veux aussi que le lecteur ou la lectrice, pendant un moment, se tiennent à l'endroit où ils craignent que ça leur arrive à eux aussi. Sont-ils aussi sûrs d'eux-mêmes? Soudain, que le doute s'instille en eux. Ça, c'est le point de rupture de ce livre. C'est là que je voulais arriver.
Et c'est aussi peut-être pour ça, David Grossman, que le dilemme reste un ressort fictionnel important, qui fonctionne, parce qu'il nous plonge au cœur de la nature humaine, et on le voit dans votre roman, on l'a vu aussi encore récemment au cinéma, dans le dernier film de Terrence Malick, Une vie cachée, où un père doit choisir entre l'honneur, la vérité et sa famille, ce conflit des valeurs, ce tiraillement pour cette mère, entre la fidélité à la mémoire de son mari et l'amour pour sa fille, le prix de sa fidélité à l'homme qu'elle aimait, ou le coût d'un abandon pour sa fille, Nina. Vous décrivez aussi cette personne et ce choix qu'elle a fait, sans le juger, comme une manifestation du courage dans vos remerciements, David Grossman.
Je ne juge absolument pas mes personnages. Je montre toutes leurs facettes et j'essaye de décrire leur situation avec le plus de nuances possible. Chacun peut en tirer son propre jugement. Je crois qu'il y a une chose extrêmement importante dans l'écriture, dans les relations, dans le couple entre l'écrivain et ses personnages. Je n'aime pas les écrivains dont on sent qu'ils haïssent leurs personnages. Ils sont un peu justiciers ou juges de leur personnage. Il y a un intérêt ici qui est autre que celui de raconter une histoire. Moi, je ne les aime pas particulièrement, je ne le hais pas. Parfois, même si les personnages sont très aimables, j'essaie de trouver la bonne distance où le personnage peut être indépendante sans que je m'impose à elle, sans que je lui fasse faire trop de manipulations. C'est quelque chose d'extraordinairement important pour moi. Trouver la bonne distance, trouver la bonne mélodie que doit porter chaque livre. Et c'est ce qui permet au lecteur, à la lectrice, de faire ce pas de plus vers le livre, sans que le lecteur sente que je les pousse dans une direction. Le lecteur peut décider à quel point il va dans la direction de mon livre.
L'héroïne, ou disons la narratrice principale, Gilly, tient de vous aussi, David Grossman. Elle a une caméra au poing, elle filme pour reconstituer l'histoire de sa grand-mère, Vera. Comme vous, quand vous étiez correspondant pour la radio nationale israélienne, il y a quelque temps, vous aviez sillonné le pays, interviewé sans fin des anonymes comme des personnalités, d'autres vies que la mienne. Sur cette quête d'écrivain, Romain Gary, en 1974, on l'écoute.
J'écris en général pour aller aussi loin de moi que possible, pour être chez les autres, pour aller chez les autres, visiter les autres, avoir des contacts avec les autres, des gens que je ne connais pas. Pas du tout pour rester à l'intérieur de moi-même, régler mes comptes avec moi-même. C'est une visite à des personnages étrangers, un roman. Et c'est ça qui m'intéresse. Il me semble que si je devais me limiter à moi-même, je n'écrirais pas du tout.
Et vous, David Grossman, quand vous allez à la rencontre des autres, quand vous écrivez sur la vie des autres, c'est pour mieux vous retrouver ou pour vous éloigner de vous-même ?
Non, pas pour m'éloigner. En dépit de mon grand amour pour Romain Gary, je crois que, d'après les livres que j'ai lus de lui, plus il s'éloignait de lui, il se rapprochait de lui. Je vais parler de moi. Il y a une tendance, essayer de comprendre quelqu'un de l'intérieur de cette personne. Il faut s'abandonner un petit peu et permettre à l'autre de vous pénétrer, de prévaloir sur votre être. Je pense que l'écriture m'a enseigné à quel point il y a d'autres possibilités d'existence en moi. J'aurais pu être femme, j'aurais pu naître palestinien si j'étais né à 500 mètres de l'endroit où je suis. J'aurais pu naître tellement d'autres personnes. Et tout cela, de façon mystérieuse, est en moi. Et quand j'écris, quand je cesse de m'opposer à eux, quand je leur laisse prendre la main sur moi, c'est une richesse extraordinaire. C'est un plaisir extraordinaire. C'est une force fantastique. Être un individu, être tellement étroit, être hermétique, ben on paye pour ça un prix très élevé. Mais si on est prêt à faire un petit passage pour toutes les autres possibilités d'existence qu'il y a en nous, d'autres âges, d'autres genres, d'autres peuples, être un croyant, être un incroyant, être un jeune, être un vieux, si je fais cette tentative, soudain, je vois le nombre de possibilités de vie que j'ai. Et cette profondeur, c'est extraordinaire. Il est difficile de décrire la puissance de cette joie qu'il y a dans ces moments où soudain, on peut voir toute la vérité, non seulement par les yeux des autres, mais aussi par ses propres yeux. Ça aide beaucoup, Olivia, vous savez. Pas simplement dans les relations entre Israéliens et Palestiniens, c'est vrai aussi dans les relations entre les deux membres d'un couple ou entre deux frères. Nous sommes parfois tellement enfermés dans les histoires que nous nous racontons sur nous-mêmes, en tant qu'individus, en tant que peuple, en tant que nation, en tant que pays. Si nous nous permettons de nous libérer de cette histoire fondamentale que nous savons parfaitement raconter, jusqu'à ce que devienne notre prison, mais si nous nous permettons d'être plus souples, si nous sommes prêts à avoir plus de courage, à ce moment-là, nous pouvons voir la vérité de points de vue totalement différents. Et il y a véritablement un élargissement de l'âme. Et il y a vraiment une richesse infinie de l'humain. Et nous pouvons véritablement nous enrichir de toutes les possibilités que nous avons créées, que nous avons précédemment pas tenté de connaître. Et l'écriture, à mes yeux, c'est le meilleur moyen de nous libérer de ces liens, de cette histoire fondamentale, l'histoire à laquelle nous sommes habitués.
Comprendre la vérité. Nous sommes une famille si bousillée, si peu généreuse, écrivez-vous aussi, David Grossman, dans ce roman « La vie joue avec moi » qui paraît au seuil. Au fond, on entend que la générosité, pour vous, elle est plus dans le récit que dans le silence, dans la délivrance que dans la retenue et la pudeur. Parce qu'il est question de ça aussi à travers cette trajectoire qui va mener Vera au goulag. Il est aussi question de l'abandon de sa fille, Nina, lorsqu'elle avait 6 ans, puis l'abandon de Gilly par Nina lorsqu'elle avait 3 ans, que le romancier que vous êtes, David Grossman, interroge. « Je suis incapable d'avoir un enfant à moi », crie Gilly, « une paria d'enfantement, voilà ce que je suis ». Elle a des mots extrêmement durs à l'encontre de sa mère, mais finalement leur relation à travers la parole, la délivrance du récit, va s'adoucir, briser la malédiction, arrêter l'attente, comprendre plutôt que de haïr. Est-ce que vous aussi, vous avez été plusieurs fois tenté dans votre vie, David Grossman, de refaire le film de votre histoire familiale ?
Quasiment chaque chose que j'écris est lié à des choses qui me sont arrivées. Et même s'ils ne me sont pas arrivés, elles auraient pu m'arriver. Ma famille est très différente de celle de Eva Panichnaïr, quasiment de tout point de vue. Elle est totalement différente. Mais la famille en tant qu'idée, c'est peut-être ce qui m'intéresse le plus dans l'écriture. J'écris de toute façon possible, de tout point de vue possible. Il y a un moment dans le récit qui est vraiment un tournant à mes yeux. C'est le moment où Gilly, la fille de Nina, celle qui a été abandonnée quand elle avait 3 ans et demi, Gilly qui est d'une haine profonde sa mère, qui est cette traîtresse, cette égocentrique. Après quelques jours où elles sont ensemble sur les routes, parce qu'elles voyagent vers Goliotok, cette île où se trouvait le goulag, et Gilly filme, enregistre en vidéo tous ces gens-là. Soudain, elle voit sa mère, la mère haïe, d'un point de vue légèrement différent, même physiquement. Elle n'est pas devant ses yeux, mais elle est un peu de côté. Et elle dit à ce moment-là, Peut-être que je ne la hais pas tellement. Elle se pose la question. Peut-être que c'est un moment de faiblesse. Elle dit, qui suis-je? Qui suis-je si je n'ai pas cette haine pour ma mère? Et je me suis dit que c'était véritablement un moment clé, un tournant dans le roman. Parfois, on s'habitue tellement à haïr quelqu'un, à le voir vraiment le repousser, le mépriser. On construit une personnalité totale sur cette haine. Et soudain, lorsque cette haine se fendille, se fend, et à ce moment-là, on est complètement déstabilisé. Mais qui sommes-nous sans la haine? Qui sommes-nous sans ce désir de vengeance? Pourquoi est-ce que nous en sommes arrivés là? Donc il y a un moment où la terre tremble sous nos pieds. On ne se connaît que à travers cette haine, cette volonté de vengeance. C'est vrai aussi avec les relations qu'on a avec des tas de gens. Et c'est vrai aussi pour les relations entre nous et nos voisins palestiniens. Qui sommes-nous sans cette haine?
Justement. David Grossman, pardon, encore une question. Parce que le temps file. Rien n'est joué encore. Gallimard publie ce mois-ci la dernière conférence du 2 juin 2018 à l'université Tel Aviv de votre ami, le camarade écrivain Amos Oz, décédé il y a 2 ans. C'est un testament politique qu'il avait livré là lors de cette conférence. Le testament d'un écrivain engagé pour la paix, partisan d'une solution à 2 États, fondateur avec Avraham Yehoshua et vous, David Grossman, du mouvement La Paix Maintenant. Il appelait les Israéliens une fois encore à agir cette année-là, car, a-t-il dit, ce jour-là, en reprenant les mots de l'écrivain Joseph Haïm Brenner, rien n'est encore joué. Vous y croyez encore, vous aussi, David Grossman, rien n'est encore joué, on a toujours le choix.
Bien sûr. Je ne peux pas me permettre le luxe du désespoir d'une solution nationale. Non, je pense que le fait que Joe Biden soit élu président des États-Unis pourrait arriver à un accord beaucoup plus équilibré entre nous et les Palestiniens, ne pas les contraindre avec des conditions qui seraient bien bonnes pour Israël, mais qui ne seraient pas bonnes pour les Palestiniens, avec des conditions qui seraient bonnes pour un côté et pas pour l'autre. Ben ça, c'est pas une solution, c'est simplement repousser la solution d'un conflit à des années d'aujourd'hui.
David Grossman, dans ce livre, dans ce roman, Eva, vous avez demandé, vous le dites, hein, d'en faire un livre, la vraie Eva, qui a inspiré le personnage de Vera. Et étonnamment, vous en avez fait un film. Votre livre prend la forme d'un script, d'un scénario. De quoi avons-nous le plus besoin aujourd'hui? J'en terminerai sur cette question. Des images, de mettre des images sur nos vies, comme vous le faites dans ce dernier roman, de poésie, comme dans Tomber hors du temps, l'un de vos précédents livres, d'humour, comme dans Un cheval entre dans un bar, alors que nos vies sont confinées, et c'est le cas hein, en Israël depuis la mi-septembre. De quoi avez-vous, vous, David Grossman, le plus besoin aujourd'hui?
Je ne voudrais pas être celui qui doit faire le choix. Je veux écrire avec humour, je veux écrire de la poésie et documenter aussi. Et Olivia, pour répondre à votre question, c'est vraiment la situation qui est terrible et je la suis pas à pas. Je suis ce qui se passe en France aussi. J'ai tellement d'amis en France et même de gens que je ne connais pas. Donc, vous êtes en train de vivre une époque extrêmement dur, quelque chose, une expérience extrêmement dure que vous n'avez pas connue depuis des années. Et en Israël, c'est peut-être un peu plus petit, un peu plus léger. La situation s'est mieux équilibrée. Mais ça reste encore, c'est pas encore la fin de l'histoire. Ce dont on a besoin, c'est l'imagination. C'est la façon la plus efficace. C'est comme envoyer, si vous voulez, une encre vers le futur, vers l'avenir, pour éviter tous nos problèmes d'aujourd'hui. Mais il faut utiliser l'imagination de façon optimiste. Il faut véritablement se dire que nous connaîtrons des jours meilleurs et que nous ne resterons pas dans cette pandémie, dans ces jours terribles de la pandémie. Et que nous reviendrons à une culture dans tous ses aspects, avec les théâtres, les cinémas. On reviendra vers les terrains de sport, les terrains de football. Et reviendra le moment où nous n'aurons plus peur d'enlacer, d'embrasser les gens que l'on aime dans la rue. Il faut imaginer cette situation lorsque cela va se produire. Et peut-être que ce moment n'est plus très long si on écoute bien les informations. Il faut utiliser l'imaginaire de façon active contre le poids de la crainte et du désespoir.
Alors on ferme les yeux et on entend votre voix et on pense et on imagine très fort vous avoir eu avec nous dans ce studio, comme ça avait été le cas la dernière fois à l'occasion de l'apparition d'Un cheval entre dans un bar. À très bientôt. Merci beaucoup David Grossman. La vie joue avec moi vient de paraître aux éditions de Sensei. Au revoir. Merci beaucoup. Oui.